E-learning,
formation,
neurosciences,
micro-learning,
dyslexie,
apprentissage,
le mapping,
numérique,
pensée design,
apprentissage social,
co-création,
collaboration.
Épisode 9, mon invité du jour, c'est Isabelle Collet, l'auteur d'un livre très remarqué sur les oubliés du numérique. Isabelle Collet, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Formation 3.0. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et quel est votre parcours ?
Alors, je suis informaticienne scientifique de formation initiale. J'ai eu un bachelor il y a un bon moment en traitement d'image numérique, traitement du signal. Et puis, ensuite, j'ai quitté en partie l'informatique puisque je suis entrée en sciences de l'éducation. Je suis maintenant professeur à l'Université de Genève en sciences de l'éducation. Je continue à travailler sur l'informatique. J'ai fait ma thèse sur la masculinisation des études d'informatique. Donc, ma spécialité maintenant, c'est les questions de genre dans la tech.
Ok, c'est ce qui explique effectivement vos deux axes de travail, si on en croit les titres de vos livres, c'est la formation et l'informatique.
C'est ça.
Mais avec toujours cette notion de genre comme fondation.
Oui.
Ok. Et alors pourquoi ce livre aujourd'hui ? Puisque vous avez déjà écrit en 2006 « L'informatique est-elle un sexe ?» Alors pourquoi un nouveau livre aujourd'hui sur la thématique des oubliés du numérique ?
Alors en 2006, quand j'ai publié ce livre, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose que tout le monde avait oublié, c'était qu'il y avait eu une époque où il y avait eu pas mal de femmes en informatique, en Europe, 30%, 40% selon les pays, et plus personne n'en avait le souvenir. J'ai fait ma thèse sur cette question, ce qui s'est passé.
Effectivement, dans les années 80, d'ailleurs, il y avait pratiquement plus d'un tiers de femmes.
Oui, c'est ça, voilà. Et en 2000, à peu près, quand j'ai écrit mon livre, quand j'ai préparé ma thèse, c'est pas si loin, c'était juste 20 ans en arrière. Alors, les personnes les plus âgées me disaient « Ah oui, non, mais quand même, il y a pas mal de femmes en informatique, je comprends pas », parce qu'elles se souvenaient de cette époque, elles n'avaient pas vu l'évolution. Et les personnes plus jeunes me disaient « Non, mais enfin, elles n'aiment pas qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas les forcer », en n'ayant aucune conscience que 20 ans avant, elles étaient plus nombreuses. Donc, j'ai écrit un livre plutôt de constat à cette époque. Et puis, je l'ai écrit, très honnêtement, dans une indifférence générale. Je dirais qu'à part ma directrice de thèse, ça intéressait à peu près personne, et en particulier personne dans le monde de l'informatique, puisque les gens me disaient aux substances, nous on veut bien qu'elles viennent, au contraire, si elles ne viennent pas, ce qu'elles n'aiment pas, et puis on n'en parle plus. À l'époque, j'avais dit qu'il était tout à fait probable que les choses s'aggravent et que la part des femmes continue à diminuer, c'est ce qui s'est effectivement produit, et puis j'ai plus d'idées, c'est-à-dire, j'en avais assez de refaire les mêmes constats, je ne voyais pas les choses changer, je ne voyais pas d'intérêt dans l'entreprise ou dans l'éducation pour faire bouger les choses. Donc, je me suis mis à travailler sur autre chose, pas très très différent, vu que j'ai travaillé sur comment former les enseignants et les enseignantes aux questions de genre et à pratiquer une pédagogie de l'égalité. Alors, plutôt au début, les enseignants scientifiques et techniques, mais finalement, toute personne enseignante. Et puis, là, depuis, quand ma thèse a eu 10 ans, en gros, c'est-à-dire en 2015, par là, en France, en tout cas, il a commencé à y avoir un sursaut d'intérêt sur la question, et je commençais à rencontrer des personnes du monde de l'informatique qui m'ont dit comment ça se fait, à quel moment sommes-nous discriminants sans nous en rendre compte qui font que les femmes ne viennent pas ? Ah oui, alors là, c'était tout à fait un autre discours.
Oui, tout à fait. La question est complètement différente.
Là. Et oui, donc là, on peut commencer à travailler. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience. Et puis, simultanément, je suis tombée sur des études qui remontaient, pour le coup, pratiquement à l'époque où j'avais fait ma thèse, c'est-à-dire au début des années 2000, des actions qui avaient été menées aux États-Unis ou en Norvège, où des écoles avaient fait progresser la part des femmes dans leur filière de façon considérable et très, très vite. Alors, je me suis dit, c'est la preuve que si on veut, si on y met les moyens, on peut le faire. Donc, j'ai recommencé à travailler sur cette question. Et, Et là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont interpellée en me disant, il faudrait quand même qu'on commence à comprendre pourquoi. Non, 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 on ne va pas commencer à comprendre. Moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, presque 20 ans. Comprendre les causes, on commence à avoir une vraie bonne idée. Il faut arrêter d'essayer de comprendre les causes. Il faut se mettre au boulot, quoi. Il faut changer un peu. Faut avoir des actions affirmatives. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je ne voulais pas qu'on oublie tous les travaux qui avaient été faits. J'ai participé à des enquêtes menées par l'Union européenne en 2004 sur le manque de femmes en informatique. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel on a des recherches depuis longtemps. Donc, je ne voulais pas qu'on réinvente la roue et qu'on parte d'une base analysée, étudiée. Et puis surtout, il y a des choses où on sait que ça ne marche pas. On ne va pas les refaire, on ne va pas recommencer. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit « Les oubliés du numérique ».
D'accord. Et à qui s'adresse-t-il en particulier? Plutôt au grand public, aux spécialistes?
Alors, on va dire que c'est de la vulgarisation éclairée. C'est-à-dire, c'est pas pour les spécialistes, c'est pas un livre de recherche, c'est pas un livre scientifique. J'ai voulu qu'il soit lisible pour les gens qui s'intéressaient aux questions de genre, mais qui connaissaient pas l'informatique, mais aussi pour les gens qui connaissaient l'informatique, mais qui s'étaient jamais posé des questions sur le genre. Et apparemment, les retours que j'en ai eus, ça a l'air de fonctionner pour ces deux publics-là.
Oui, mais moi, je l'ai lu et je l'ai trouvé vraiment, non seulement accessible, mais je l'ai trouvé vraiment passionnant. Donc, je pense que l'objectif est atteint. Alors, si je ne me trompe, vous avez une démarche qui rappelle quand même beaucoup celle de Michel Foucault, donc une démarche de généalogiste qui remonte loin dans le temps pour retrouver les causes et les mécanismes de cette exclusion des femmes. Est-ce que je me trompe?
Alors, moi, je me rattache à la sociologie. Oui. Et c'est dans cette optique-là que j'ai... En fait, j'ai cherché à faire l'histoire des sciences. C'est plutôt ça, ma démarche, oui. Parce que... en fait, je me suis rendu compte qu'à l'école, personne ne prend en charge l'histoire des sciences. C'est-à-dire, en sciences, on fait pas d'histoire des sciences, et en histoire, on fait pas d'histoire des sciences. Mmh. Quand j'ai fait mes études d'informatique, en gros, on m'a dit l'ordinateur, ça commence avec Blaise Pascal. Et puis ensuite, il n'y a rien. Et puis soudain, il y a l'ENIAC. Et puis, il n'y a rien. Enfin, voilà. C'est que la personne qui nous a fait l'histoire des sciences nous a fait une espèce d'intro générale. C'était une personne qui n'y connaissait rien en histoire, qui était informaticien, qui avait pris un bouquin. Il nous a refait le chapitre. Et c'est tout ce que j'ai en histoire des sciences. Dans l'histoire de l'informatique qu'on m'a fait, il n'y avait absolument aucune femme. Et jusqu'à ces dernières années, quand j'allais parler dans des amphis d'étudiants et d'étudiantes en informatique, et quand je disais la première personne à avoir écrit un programme informatique, c'est une femme, les gens tombaient des nues. Alors, il n'y a pas qu'en informatique hein, qu'on a ce problème. Il y a un problème général d'histoire des sciences, et quand on en fait, on oublie d'aller fouiller pour voir si par hasard, il n'y a pas des femmes qui ont été oubliées, mais qui ont quand même fait des...
Oui, on pourrait dire que c'est un oubli systématique hein, dans l'histoire des sciences.
Alors, bon, pas que dans les sciences, pour le coup. Hein, on s'aperçoit que dans l'histoire du théâtre, de la littérature, de la peinture, il y a des femmes qui obtiennent une petite notoriété dans leur temps. Elles n'entrent pas dans les annales et la génération après, on les redécouvre indéfiniment. Quoi.
Oui, c'est ce qui se passe avec la peinture et la littérature en ce moment. Il y a vraiment une voilà, redécouverte. Oui. Mmh. Alors dans votre livre, vous parlez aussi évidemment de toutes les pseudo-causes et notamment les pseudo-causes biologiques. Et on a l'impression, en lisant certains textes, que la nature féminine a horreur de la technique. Et vous, par contre, vous déconstruisez la nature masculine de numérique. Vous pouvez nous parler un peu de ces deux aspects?
Alors, évidemment, si on suppose que le monde est déjà égalitaire et que toutes les différences qui s'expriment, ma foi, puisque le monde égalitaire ne sont qu'une question de nature, bah, ça ne sert à rien qu'on travaille à faire plus d'égalité. Ça, c'est un postulat qui est souvent utilisé pour dire qu'en fait, les actions de rééquilibrage sont finalement parfaitement injustes et contre nature, parce que dans le fond, tout le monde sait que les femmes, ceci, et les hommes, cela. Alors, quoi les hommes et les femmes? Il y a une longue construction des savoirs, une longue construction d'une division des savoirs entre les hommes et les femmes, qui tend à donner, en gros, la nature aux femmes et la culture aux hommes. C'est-à-dire les femmes étant supposées être plus proches de la nature parce que elles produisent les enfants à l'intérieur de leur corps, les mettent au monde, puis les élèvent. Elles seraient à la fois plus proches du monde enfantin, parce qu'elles s'occuperaient des enfants, comme si c'était facile, et plus proche de la biologie, plus asservie à leur corps, etc. Alors que les hommes ne pouvant pas faire les enfants à l'intérieur de leur corps, et là ce qui est très drôle, c'est que des fois on dit ne pouvant pas faire les enfants eux-mêmes, ah si, si, hein, faut quand même rappeler, pour avoir un enfant, faut être deux, les hommes font les enfants tout autant que les femmes, ils ne les portent pas, ça c'est la différence. Donc les hommes ne portant pas les enfants, semblant moins proches de la reproduction, eh bien ils auraient en quelque sorte les mains libres et l'esprit libre pour s'intéresser aux choses plus abstraites, donc la création des savoirs abstraits, et en particulier les sciences et techniques. Alors ça, vous allez me dire, je vous raconte une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Ah oui, oui, absolument, je vous raconte une histoire qui remonte au Moyen-Âge, où en plus, à cette époque-là, il y avait des clercs misogynes qui ont constitué les bases de l'université qui ont perduré jusqu'au 19e, 20e siècle, qui expliquent en substance que la bonne science doit se faire entre hommes. Préférentiellement d'ailleurs entre hommes célibataires, mais de toute façon, la bonne science ne peut se faire qu'entre hommes. Et si par hasard, il y aurait des femmes qui auraient la compétence scientifique, ce serait très surprenant, mais enfin, ça peut arriver. Peu importe, c'est inimaginable d'admettre des femmes qui feraient cours à des hommes, qui auraient une préséance sur les hommes, qui prendraient un ascendant sur eux. Donc les femmes ont été exclues de la création des savoirs, et ensuite tout dépend de la hiérarchie des savoirs. C'est-à-dire, quand les savoirs perdent de leur valeur dans le monde social, soudain on les imagine beaucoup plus féminins. Et à l'inverse, dès qu'un savoir prend de l'importance dans le monde social, il se masculinise. Et c'est typiquement ce qu'on voit avec l'informatique, mais qu'on a vu dans beaucoup d'autres domaines. Jusqu'au début du XXe siècle, on considérait que les humanités avec un grand H, le latin, le grec, la philosophie, c'était typiquement des disciplines masculines et que les femmes ne pouvaient pas s'en sortir. Bon, à partir du moment où les humanités ont perdu leur valeur dans le monde social, soudain on s'est aperçu qu'il y avait énormément de femmes dans ces filières. Malheureusement, c'était difficile de trouver du travail uniquement avec un diplôme sur les humanités, et on s'est mis à théoriser que le fait que par nature les femmes seraient plus douées pour les langues, pour les lettres, etc., etc., alors que pendant des siècles on avait tenté de les empêcher de lire. Donc bien sûr, quand on voit ces transformations en gros du genre des savoirs, on comprend bien que la nature n'y est pas pour grand-chose.
Exactement. Et alors il y a aussi la religion qui entre en compte, puisque ordinateur, donc c'est aussi un des adjectifs qui qualifie Dieu, c'est le Dieu qui met de l'ordre dans le monde.
Oui, alors ça c'est complètement extraordinaire. Comment en français, cette machine a récupéré ce nom d'ordinateur? Parce que quand IBM est arrivé en France avec ses computers, IBM France a cherché un nom français pour vendre l'ordinateur à la France. Et le responsable marketing d'IBM à l'époque est retourné voir son vieux prof de français en lui envoyant un certain nombre de plaquettes descriptives de l'objet et en lui demandant comment on pourrait l'appeler en français. Et cette personne qui s'appelle Jacques Perret, qui était donc pas du tout un technicien ou un mathématicien, c'était vraiment un philologue, lit les plaquettes d'IBM et dit que finalement, il fait plusieurs propositions, hein, mais celle qu'il préfère, et il commence sa lettre comme ça, il dit « Que diriez-vous d'ordinateur ?» C'est un mot correctement formé, puisqu'il se trouve même dans le littré, signifiant « Dieu qui met de l'ordre dans le monde ». Donc, en somme, ce prof de lettres est suffisamment pris dans les fantasmes de l'époque qui existent autour de l'ordinateur pour trouver tout à fait acceptable que cette machine, qui est en gros une grosse machine de calcul statistique, hein, faut quand même imaginer, là on est en 1950, l'ordinateur c'est à peu près tout ce que ça fait, que cette machine peut, à l'instar de Dieu, mettre de l'ordre dans le monde. Alors évidemment, on propose ça à IBM, c'est une merveille. Ils sont en train de fabriquer une machine aussi puissante que ça, et donc c'est comme ça que l'ordinateur a récupéré ce nom. Alors évidemment, la plupart des gens ont complètement oublié cette étymologie, et ordinateur est passé bien sûr dans le langage courant. Néanmoins, le fait qu'il a paru plausible, imaginable de lui donner ce nom, ça veut bien dire que l'ordinateur a été porté par des fantasmes de pouvoir et de puissance extraordinaires. Parce que si l'ordinateur est la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde, qu'est-ce que penser de la personne qui contrôle l'ordinateur ?
Vient le démiurge vraiment du monde.
C'est ça, c'est vraiment le pouvoir absolu.
Ouais. Alors pour en revenir au maire de l'ordinateur, il y a des noms surprenants quand même dans la liste. Il y a Mary Shelley, par exemple, qui est l'autrice de Frankenstein.
Alors oui, effectivement, ça peut être étonnant. Et si je l'ai mise, en fait, si je la mets en tête des mères de l'ordinateur, c'est parce qu'en fait, elle écrit un des premiers textes qu'on a pu considérer comme étant de la science-fiction, parce que même si c'est devenu la littérature fantastique, quand elle l'écrit dans son esprit, elle écrit de la science-fiction parce qu'elle dit que c'est scientifiquement plausible à partir des savoirs de l'époque. C'est ranimer un cadavre avec de l'électricité, c'est
Oui.
le genre d'expérience qui se font à l'époque. Et puis surtout, elle crée un être artificiel, c'est-à-dire le docteur Frankenstein anime donc un
Sa
être
créature.
artificiel, et elle écrit un roman où elle dit qu'elle écrit un roman familial et qu'elle écrit un roman sur l'éducation. Alors, c'est pas ce qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est comment l'homme s'approprie le pouvoir divin, fait n'importe quoi avec et ça se retourne contre lui. Alors, il y a ça aussi, évidemment, dans Frankenstein. Mais ce que Mary Shelley veut écrire, c'est comment ce principe d'auto-engendrement du docteur Frankenstein, qui ne passe pas par les femmes et qui fait tout seul, produit une créature monstrueuse, non pas parce qu'elle est intrinsèquement mauvaise, mais parce que son père le renie, ne s'occupe pas de lui, il n'est pas entouré de l'amour de sa famille, il n'a pas de mère, et il devient,
Oui, il se
bien malgré
venge.
lui, méchant. Voilà.
Oui. Mais il y a aussi deux versions de Frankenstein. Il y a celle de 1818 et celle de 1831. Et celle qui est publiée de nos jours, c'est celle de 1831, qui est vraiment expurgée d'une bonne partie du savoir scientifique. Parce que Mary Shelley, c'est la fille de Mary Wollstonecraft, qui était déjà une des premières femmes à écrire justement sur l'égalité des genres. Mais c'est aussi la compagne du poète Shelley, donc ça devient sa femme. Ils sont tous les deux des passionnés de science. Shelley, en plus, est athée, a eu des écrits qui l'ont mis au banc de la société à un moment donné. Et dans la première version de Frankenstein de 1818, il y a énormément de références scientifiques et de références athées. Et quand en 1831, on lui redemande, on lui repropose de publier, elle est veuve avec des enfants. Et on lui dit, on peut republier, mais il faut expurger, il y a des choses qui sont plus possibles. Et elle comprend qu'en 1831, publier toute cette partie scientifique et radicale, puisque Shelley est quand même pas très radical, c'est plus possible, et donc elle l'expurge. Et donc il y a toute une partie scientifique de l'ouvrage qui a été complètement masquée depuis. Il y a quelques années, il y a Penguin qui a republié la version de 1818 en anglais, mais en français, je ne suis même pas sûr qu'elle existe en français.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu. Et l'autre chose que je trouve intéressant avec Mary Shelley, alors, outre le fait qu'effectivement, c'est la fille de Mary Wollstonecraft et elle a des parents féministes, tous les deux, pour le coup, et puis une vie scandaleuse, évidemment, parce qu'elle se sauve avec Shelley alors qu'elle est très
Excellent,
jeune. Frankenstein est écrit dans une soirée littéraire qui est devenue célèbre. Enfin,
oui. Oui.
parce que de la même soirée littéraire sont nés les deux monstres, enfin les deux mythes de la littérature fantastique les plus importants, qui sont le vampire et la créature de Frankenstein. Soirée littéraire organisée par Lord Byron sur le lac Léman à côté de Genève. C'est la fille de Lord Byron, Ada Lovelace, qui va écrire le premier programme informatique. Alors, ce qui prouve qu'en fait, le monde de la société anglaise, c'est tout petit, quoi. Ils se
Oui,
connaissent
mais
un peu tous.
Byron et
Voilà.
Shelley étaient des amis, si je me souviens
Voilà,
bien.
Byron et Shelley étaient des
La
amis.
sœur de Mary Shelley a été aussi la maîtresse de Byron, si je me souviens.
Alors, je pense
Donc
qu'il doit y
c'est
avoir
tout ça est
peut-être
dans
des
un tout
femmes en
petit cercle.
Angleterre qui n'ont pas été des maîtresses de Byron.
Oui, mais ils ont habité ensemble, non seulement en Suisse, mais en Italie aussi. Et c'est vraiment un tout petit cercle extrêmement, extrêmement cultivé, extrêmement curieux, non seulement de la littérature, mais des sciences aussi. Et donc, il y a un bouillonnement intellectuel incroyable dans ce petit milieu, dans ce petit
Et oui,
cercle.
et un des profs de maths d'Ada Lovelace a servi de modèle à Mary Shelley pour Frankenstein. Enfin, c'est vraiment un petit monde. Et l'ordinateur, enfin, la première machine à calculer, est sortie aussi de ce bouillonnement. Alors, elle a été créée en point de vue conception matérielle, par Charles Babbage, qui était un mathématicien de premier plan anglais et aussi un ingénieur. Qui, comme beaucoup des savants de l'époque, pensait que Dieu avait écrit le monde en langage mathématique et que certes sa machine allait recalculer des tables statistiques et des tables en particulier pour la navigation de la marine anglaise et des tables logarithmiques, mais au fond, Il avait des vues mystiques dans la réalisation de sa machine, et Ada Lovelace, qui a travaillé avec lui, avait cette même quête mystique en mettant au jour, en gros, la manière dont Dieu aurait décrit le monde, et créé le monde.
Oui, c'est
Donc
aussi
finalement,
les fondements de la Kabbale, hein, où Dieu a créé le monde avec le verbe, mais chaque lettre étant l'équivalent d'un nombre, et donc finalement, il y a une équivalence entre les lettres et les nombres, et donc Dieu a créé le monde avec des nombres, effectivement.
c'est pas pour
Mais ce
rien que le
mysticisme-là, on le
premier,
retrouve
voilà.
aussi chez d'autres scientifiques, notamment chez
C'est
Newton,
Newton.
qui s'intéresse aussi à la Kabbale, enfin chez Giordano Bruno. On dit qu'il a été brûlé parce qu'il a découvert les mondes infinis, mais en fait, il a été brûlé pour sa sorcellerie, parce qu'en marge de ces mondes infinis, il a pratiqué aussi la magie, etc. Pic de la Mirandole a traduit des textes du pseudo Hermès Trismégiste. Pour parler de l'histoire des sciences tout à l'heure, il y a Francis Yates aussi qui a écrit des livres sur justement les scientifiques et le moment où, à la Renaissance, la science a commencé à se dégager de tout ce mysticisme, mais ne s'est pas dégagée d'un coup, ça s'est fait progressivement avec des renoncements parfois douloureux de la part des scientifiques.
Et pas complètement fin.
Oui, en plus.
Il en reste des traces en
Oui,
quelque
tout à
sorte, parce que
fait.
le premier ordinateur en Israël, ils l'ont appelé le golem. Et
Oui.
effectivement, c'est pas pour rien. Le golem est animé
Aussi par le verbe de
par le
Dieu.
souffle de Dieu et par les lettres qui sont écrites sur lui. Donc, et puis, parmi les créateurs de l'ordinateur, il y a des théoriciens juifs dont, alors par exemple, ce n'est pas vrai, c'est une légende qu'il aimait faire courir, mais Norbert Wiener, qui est le premier cybernéticien, qui a inventé la science cybernétique, aimait faire courir l'idée, même si ce n'était pas vrai, que son ancêtre était le Maharal de Prague qui a
Ah
écrit le golem. Parce que il y a évidemment beaucoup de liens entre la Kabbale et ce jouer avec les nombres et la théorie des nombres. Et par contre, pour le coup, il y a un autre cybernéticien allemand qui lui aurait été Théodore von Karman, un des descendants du Maharal de Prague. Donc ce mysticisme-là, en fait, il traîne dans toute l'histoire de l'ordinateur. C'est pas complètement étonnant qu'à la fin, il y a un philologue qui dit pourquoi pas ordinateur pour nommer cette machine.
Les femmes peuvent être aussi une main-d'œuvre peu chère. C'est par exemple ce qui explique pourquoi elles ont été utilisées pour calculer des tables astronomiques.
Alors, c'est-à-dire que c'est une époque où il s'agissait de cartographier le ciel, de s'user les yeux sur des images du ciel et de classifier toutes ces étoiles. Bon, c'était fastidieux. Tout ça pour remplir un catalogue. Il n'y a probablement pas de prestige à en sortir. Et puis, effectivement, les personnes qui travaillaient là-dessus décrochaient vite, quoi. Les chercheurs, ils n'avaient pas l'intérêt de passer autant de temps sur les calculs. Et d'ailleurs, quand les premiers ordinateurs ont été, enfin, pardon, quand les premières machines à calcul ont été créées, le but était de délester l'homme de ses travaux peu intéressants, qui sont des tâches d'esclave, on disait même, pour que l'homme, et je dis bien l'être humain mâle, puisse faire des choses bien plus intéressantes. Donc là, il y avait le ciel à cartographier, et puis de nombreuses jeunes femmes qui avaient des compétences en mathématiques, qui avaient fini en général l'enseignement secondaire, et dont les compétences mathématiques étaient peu utilisées, bah, se retrouvaient embauchées à cartographier le ciel et à faire ces calculs. Alors, il faut quand même se dire qu'elles étaient payées moins que des secrétaires spécialisées. Elles étaient vraiment très très mal payées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont réussi à faire tout ce travail de cartographie, parce que l'université n'avait pas les moyens de payer plus. Donc tout ce groupe de femmes avait un certain nombre de qualificatifs. Donc, ces femmes qui faisaient des calculs avaient des qualificatifs pas toujours très aimables. On les appelait, par exemple, le bioticorus ou bien le harem. Et elles étaient considérées comme totalement interchangeables. C'est-à-dire, les responsables de laboratoire pouvaient passer commande d'une nouvelle machine et de deux calculatrices, qui étaient des femmes.
Oui.
Elles ne mettaient évidemment jamais leur nom au bas de la moindre publication.
Oui, pareil pour les programmeuses de l'ENIAC, personne ne connaît leur nom ni.
Alors, les programmeuses de l'ENIAC, alors ça m'énerve quand actuellement j'entends parler des ENIAC Girls. Non, non, ce n'est pas des girls, c'était des femmes et des mathématiciennes. Alors, la formule ENIAC 6 qu'on voit apparaître de plus en plus et plus sympathique, c'était des femmes mathématiciennes qui ont programmé l'ENIAC à une époque où le langage de programmation n'existait pas, c'est-à-dire on programmait directement sur la machine avec des câbles et des commutateurs. C'est une programmation qui était à 10 km de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à cette époque-là que s'est créé, de manière en plus totalement artificielle, une scission entre ce qu'on appelait le hardware et le software, c'est-à-dire le matériel et le logiciel. Je dis que la scission était artificielle parce que, comme on programmait physiquement en commutant sur la machine, évidemment qu'il fallait des connaissances matérielles pour être capable de programmer, et même de connaissances matérielles assez fines, parce que quand ça marchait pas, fallait inférer de qu'est-ce qui n'avait pas marché dans le matériel pour faire en sorte que la programmation, pour expliquer que la programmation ne marche pas.
Oui, donc, là, l'expression langage machine prend tout son sens.
Eh oui, tout à fait. Et donc, à l'époque, le hardware qui avait du prestige, parce que c'était du travail d'ingénieur de construire des machines, était pour les hommes, et c'est pour ça que ça s'appelait hard. Et le software, qui semblait être un espèce de bricolage-tâtonnage d'une discipline qui n'existait pas, était dévolu aux femmes. C'est pour ça que ça s'appelait soft. Et cette distinction hard-soft qu'on retrouve dans sciences dures, sciences molles, par exemple, est extrêmement genrée, évidemment. Mais ce qui est amusant, c'est que aujourd'hui, elle est complètement inconnue. On s'en souvient plus parce que ça n'a plus de sens quand on regarde les populations de programmeurs qui font du software. C'est à 80% des hommes.
Oui.
Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que la programmation a pris de la valeur et a pris plus de valeur pour le coup que le matériel.
Et oui, là, on revient au phénomène de professionnalisation dont vous parliez tout à l'heure, ou à partir du moment où...
On s'est mis à former à l'université à la programmation, c'est devenu des diplômes, à l'université évidemment c'est plutôt des hommes qui y étaient, et on a vu des phénomènes tout à fait problématiques pour le coup, en Angleterre en particulier ça a été documenté, où il y avait des femmes mathématiciennes autodidactes qui programmaient, puis le diplôme a été créé, on s'est mis à avoir des software engineers, qui sont arrivés sur le marché, qui ont été embauchés par les entreprises, qui ont été plus ou moins formés, en tout cas mis au courant par les femmes qui étaient là, ils sont devenus leurs chefs, ils les ont licenciés. Alors effectivement, oui, on a un problème de féminisation du monde du numérique, mais quand on regarde comment s'est mis en place le numérique, sa structure professionnelle et l'arrivée des hommes, c'est difficile de dire que si les femmes n'y sont pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas. On les a débarquées à une époque.
Oui, c'est toutes les structures qu'on a mises en place qui les ont exclues petit à petit.
C'est ça.
Et ça continue avec l'éducation aujourd'hui, puisque l'éducation privilégie l'accès des garçons aux sciences. Donc, quels sont les mécanismes justement qui expliquent cette exclusion des filles? Comment on arrive à exclure les filles par l'éducation, tout en prônant dans les discours l'égalité, etc.
Alors, tout d'abord, faut que je dise que l'école est probablement tout de même l'instance de socialisation la plus égalitaire. Probablement plus que la famille, ou en tout cas que la plupart des familles, plus que les médias, plus que la publicité, plus que la vie politique, etc. Bon, la plus égalitaire, mais ça ne veut pas dire qu'elle est égalitaire. C'est-à-dire que c'est aussi l'instance de socialisation qui, normalement, a l'égalité au cœur de sa mission. Et qui ne peut pas dire, bah, puisque le sexisme est bien plus féroce en dehors de l'école qu'à l'école, de mon côté, j'ai plus rien à faire. Alors évidemment, l'éducation est héritière de la société, et une société se donne de l'éducation dont elle a besoin pour se reproduire. Donc en l'occurrence, nous sommes dans une société qui n'est pas égalitaire, nous sommes dans une société avec une division sexuée des savoirs entre les lettres et les sciences. En toute logique, l'école reproduit éventuellement, d'ailleurs à son insu, cette division. Alors comment elle le reproduit? De manière générale, alors c'est assez subtil parce que il y a peu de représentations de femmes dans les manuels de tout genre, c'est-à-dire aussi bien en histoire qu'en sciences, effectivement. Quand on regarde la littérature qui est étudiée, on étudie beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc de toute façon, il y a un manque de représentation de femmes dans les manuels en général. Mais en plus, quand on regarde par exemple les manuels d'apprentissage de la lecture, non seulement il y a en moyenne presque deux fois plus d'hommes que de femmes, mais en plus, ces femmes-là ne sont en général pas au travail, ou en tout cas pas dans des travaux scientifiques. Elles sont de façon assez caricaturale, maîtresses d'école, infirmières, vendeuses de légumes, vendeuses de fleurs, et elles sont en général pas au niveau des sciences. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un vrai manque de représentation banale de femmes scientifiques. Et j'insiste sur le banal, parce que quand on me dit « non mais il y a des femmes en sciences, regardez Marie Curie », Marie Curie, c'est tout à fait l'exemple qui permet pas aux filles d'aller en sciences. C'est-à-dire que Marie Curie, elle est en train de vous dire, alors ok, s'il y a une femme absolument extraordinairement brillante, deux prix Nobel hein, quand même, Marie Curie, alors là, ok, il y a une place pour les femmes. Mais si vous êtes juste normal, ah ben non, c'est Marie Curie ou rien. Donc voici un petit peu le message que la société envoie aux filles sur il n'y a de la place pour les femmes en sciences que si elles ont des profils totalement hors du commun. Pour le tout venant, il n'y a pas de représentation. Donc ça, c'est une première chose.
Oui, c'est un profil idéalisé aussi, parce que si on regarde un peu l'histoire et comment elle a été traitée de son vivant, ça n'a pas été si évident que ça non plus.
Oui, et d'autant plus, on vous dit, regardez, ça va être horrible, vous ne serez pas heureuse, va falloir se battre, mais si vous êtes totalement brillante, peut-être qu'au final, ça en vaut la peine, quoi. Donc c'est vraiment...
C'est un appel au martyr, quasiment.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment inaccessible. Alors, des fois, on me dit, dans la fiction, par exemple, dans Millennium, il y a le personnage de Lisbeth Salander qui est un personnage de hackeuse. Alors, sur le plan de la fiction littéraire, c'est un personnage extraordinaire.
Oui.
Par contre, est-ce qu'on a vraiment envie d'être Lisbeth Salander?
C'est-à-dire, oui, elle paye le prix fort hein, pour
son enfance. Elle est asociale, elle a une mémoire eidétique, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une mémoire eidétique, c'est pas non plus un rôle modèle qui tient la route. Alors, pour les garçons, Einstein n'est pas un rôle modèle possible, évidemment, il est beaucoup trop loin. Mais il y a plein d'autres intermédiaires, c'est-à-dire, c'est pas Einstein ou rien, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres solutions. Et puis, comme vous disiez, Einstein, alors on a beau dire, oui, quand il était petit, c'était un camp, bon, les difficultés qu'il a eues n'ont rien à voir avec celles qu'a pu avoir Marie Curie. Donc ça, il y a un premier problème en termes de représentation, mais pas seulement. C'est-à-dire, cette croyance relativement partagée que les garçons sont quand même plus adaptés, plus orientés, plus tentés par les sciences que les filles, produit des prophéties autoréalisatrices aussi dans l'éducation. C'est-à-dire, quand on regarde, et à l'insu des enseignants et des enseignantes, hein, je le répète, quand on regarde les évaluations de garçons ou de filles à l'école, quand on regarde les commentaires sur les bulletins de notes, une fille qui a des problèmes en maths, ça semble être des problèmes structurels. Les garçons qui ont des problèmes en maths, c'est des problèmes temporaires, c'est-à-dire ils vont les dépasser. Les garçons sont vus comme étant indéfiniment immatures, jusqu'à ce que soudain ils se réveillent, ils se mettent à bosser pour de vrai et ils vont réussir. Donc on croit en eux tout du long, alors que les filles sont perçues comme bonnes élèves et donc tout le temps à fond de leurs possibilités. Alors que non, les filles ne sont pas tout le temps à fond de leurs possibilités. Mmh. Et les garçons, ils sont peut-être pleins de potentiel, mais s'ils ne s'y mettent jamais, peu importe, en définitive.
Alors, et là, justement, avec ces attentes, ça crée aussi un effet Pygmalion terrible sur...
Voilà, c'est ça. Alors évidemment, si on croit en vous, le jour où vous échouez ou le jour où vous n'avez pas travaillé assez, bon, c'est pas grave. C'est un accident, ça va venir. Si on pense que vous êtes au maximum, le jour où vous échouez, vous êtes en train de révéler que vous êtes au maximum.
Et vous confirmez ce qu'on a dit.
C'est votre limite.
Oui, tout à fait.
Alors ça aussi, c'est partie des blocages assez peu visibles de l'éducation. Mais ensuite, il y a des choses aussi qui sont complètement manifestes et visibles. C'est le sexisme réel que rencontrent les filles quand elles sont adolescentes dans les relations interpersonnelles avec certains garçons de l'école, mais encore plus quand elles sont minoritaires, voire ultra-minoritaires, dans les filières scientifiques. Alors là encore, attention, je ne dis pas que continuellement les filles subissent un harcèlement violent de la part de la totalité des garçons, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais vous imaginez 4 filles sur une promo de 80. Si tous ces garçons font une seule fois une plaisanterie sexiste dans le mois, bah pour les filles, c'est un jet continu. C'est-à-dire les garçons n'ont absolument pas capable de ce que ça veut dire d'être ultra minoritaire dans une discipline dans laquelle ne semblait pas légitime. Et donc leur plaisanterie anodine, leur remarque sexiste, ou même leur indifférence, pour eux c'est un détail, et pour les filles c'est continuel. Alors évidemment, on dit que les filles s'auto-censurent, qu'elles n'ont pas confiance, etc. C'est quand même un long travail de sape. Et au bout du compte, elles sont légitimes de se demander est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille me battre dans cette discipline où manifestement on ne fait pas grand-chose pour m'accueillir, alors que je pourrais me réaliser dans d'autres domaines où je suis également très compétente et où ce serait quand même plus simple.
Isabelle Collet, merci infiniment pour toutes ces informations. Et puis, il y a une tradition dans ce podcast, c'est de demander à l'invité s'il a un coup de cœur, un scoop ou quelque chose dont il souhaite parler. Donc, de quoi voudriez-vous nous parler aujourd'hui?
Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, justement, et c'est ce qu'on trouve rarement dans ce type d'ouvrage, ce sont les pistes pour s'en sortir. Parce que bien souvent, on se limite, comme vous le disiez tout à l'heure, à des constats, mais sans donner d'éléments pour sortir de la situation. Or, vous donnez plusieurs pistes pour sortir justement de cet état de choses et pour réinjecter, si je puis dire, des femmes dans l'industrie numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, voilà, et en fait, c'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre. Déjà, il faut être au clair sur les constats, ça on est d'accord, parce que c'est comme on disait tout à l'heure, si on pense que de toute façon c'est parce qu'elles ne veulent pas, bah, évidemment on ne va pas faire grand-chose. Donc une fois qu'on est au clair que le problème n'est pas que les femmes ne veulent pas, mais que le système tel qu'il est ne les accueille pas, voire les exclut, bah, à ce moment-là on peut réfléchir effectivement aux pistes, et ça fait suffisamment longtemps qu'on essaye de rétablir une plus grande parité dans les sciences, voire dans le numérique, pour qu'on sache ce qui ne marche pas aussi, parce que c'est important aussi d'attester de ce qui ne marche pas, pour éviter de le refaire. Et puis de ce qui marche, évidemment. Alors, il y a quelque chose qui marche très bien, qui dérange, qui n'est pas très consensuel, mais qui commence à rentrer dans les esprits, c'est les quotas. Alors, effectivement, les quotas, c'est intellectuellement pas satisfaisant. Je veux dire, on aimerait ne pas en avoir besoin. On aimerait trouver des mécanismes d'égalité qui fassent en sorte que, kaboum, soudain, on a une promo paritaire. Bon, ça fait 20 ans qu'on essaye, visiblement, c'est pas si simple. Alors, ce qu'on oppose en général au quota, c'est de dire, oui, mais si on a un quota de femmes, on va admettre dans la filière des personnes qui ne méritent pas d'y être, voire des personnes moins douées. En gros, on va baisser le niveau en prenant des personnes qui n'ont pas leur place, au détriment de personnes brillantes. Alors, faut tout de suite tordre le cou à cette idée. Premièrement, si on regarde actuellement les résultats respectifs des filles et des garçons, par exemple au test PISA, alors c'est le cas en France, je ne sais pas exactement ce que c'est quel est le cas en Belgique, mais actuellement en France, les mentions bien être au bac sciences sont détenues en majorité par les filles. Donc on peut se demander pourquoi les meilleurs élèves, ne vont pas dans les sciences et techniques. Vous mettez un quota, il y a gros à parier que vous montiez le niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on prend acte de tout ce qui a freiné, gêné, voire poussé dehors les filles qui font en sorte qu'elles ne sont pas en informatique, mettre un quota, c'est pas prendre des personnes qui ne sont pas méritantes, c'est faire ce rattrapage, c'est-à-dire de prendre acte qu'il y a eu tout un tas de mécanismes discriminants qui ont écarté les filles et d'essayer de compenser. Actuellement, il y a une discrimination positive continue et depuis très longtemps envers les hommes blancs de milieux socioprofessionnels favorisés. La vraie discrimination positive actuellement, elle est là. Quand on met un quota, on essaie juste de rattraper. Donc il n'y a absolument pas de raison d'avoir ce genre de discours par rapport au quota. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut les assumer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un quota en sous-main en disant « bah ouais, les filles, elles ont du mal, donc on met un quota ». Non, 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 on assume, c'est-à-dire on met un quota parce qu'on veut être une meilleure école, une meilleure promo, et accueillir des personnes qui ont été écartées pour de mauvaises raisons, mais qui vont exceller dans l'école. Donc ça, c'est déjà une toute autre façon de voir les quotas. Et puis, c'est évidemment pas la seule solution, même si c'est en général la plus rapide. Une université telle que Carnegie Mellon aux États-Unis a réussi à... Alors actuellement, ils ont à peu près la parité en informatique, ils n'ont jamais mis de quota, et ils ont réussi cette transformation en très peu d'années, et en fait, ils ont de manière importante, modifier, par exemple, les critères d'entrée dans l'école. C'est-à-dire, on peut se demander si, pour postuler dans ce genre d'école, c'est complètement indispensable d'avoir préalablement des compétences en informatique ou en technique. Parce que ces compétences qu'on aurait à l'entrée, bon, c'est des compétences embryonnaires. Et puis après, on va quand même passer 5 ans pour obtenir un diplôme d'informatique. C'est là que les compétences techniques vont se créer. Alors, ça montre éventuellement une sensibilité, mais ça vous dit pas grand-chose de est-ce que vous allez être en sortie un bon ou une bonne ingénieure. Peut-être qu'on pourrait mettre l'accent sur d'autres compétences à l'entrée, qui sont par exemple un engagement pour sa communauté, du bénévolat, de l'organisation d'événements, des voyages, des compétences artistiques, qui permettraient aussi de compléter votre profil d'ingénieur, parce que finalement, ça, on vous l'apprendra pas à l'école. Par contre, la technique, on vous l'apprendra. Donc, en décalant un peu les critères de recrutement, ils se sont ouverts à toute une population qui, de prime abord, n'aurait pas pensé postuler parce qu'elle ne pensait pas qu'elle aurait pu avoir des chances. Bon, et ensuite, ce n'est pas le tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez recruté différemment, il faut prendre acte que tout le monde a forcément les mêmes compétences techniques de base. Et en particulier, ils ont constaté que dans certains cours, les filles, mais aussi les personnes racisées ou les personnes de milieux défavorisés, étaient davantage en échec. Parce qu'en fait, c'était des cours qui avaient des prérequis implicites. Tout le monde sait bien qu'en technique, voilà, on a un certain nombre de choses en commun. Ben, ces personnes-là ne les avaient pas. Donc, ils ont fait très attention à partir à un vrai niveau zéro. Pas d'implicite. On part à la base et on construit toutes les compétences techniques. Et puis, ils ont aussi donné des cours sur le genre. C'est-à-dire, ils ont donné des cours pour expliquer aux garçons et aux filles que si la répartition n'était pas équitable dans le monde de la tech, ce n'était pas une question de nature, c'était parce qu'il y avait des mécanismes qui en avaient écarté les filles et qui avaient favorisé les garçons, et qu'en conséquence, les comportements des garçons envers les filles n'étaient pas, quand ils étaient hostiles ou même simplement moqueurs, c'était pas neutre. Et que si on donnait et que si on soutenait les filles, c'était pas parce qu'on pensait que c'était des pauvres petites choses à protéger, mais c'était parce qu'il y avait tout un système qui essayait de les pousser dehors. Donc, en se transformant de la sorte, et ce n'est qu'un petit exemple des multiples actions qu'ils ont mis en place pour changer un peu les proportions démographiques de leur filière, ben, ils y sont arrivés. Alors, évidemment, c'est plus intéressant, mais c'est plus compliqué quelque temps. Mais c'est également des pistes pour transformer les choses.
Isabelle Collet, merci infiniment pour toutes ces informations. Et puis, il y a une tradition dans ce podcast, c'est de demander à l'invité s'il a un coup de cœur, un scoop ou quelque chose dont il souhaite parler. Donc, de quoi voudriez-vous nous parler aujourd'hui?
C'est pas un vrai scoop, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est une chose quand même. Mon optimisme actuel, après avoir été pessimiste pendant 10 ans sur la question, bon, actuellement, quand on ramasse les chiffres sur les femmes en informatique, on se dit toujours pas, ça bouge pas. C'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines filières qui ont vu quand même leur proportion considérablement augmenter. Ça s'était jamais vu depuis en gros les années 80. Alors, sur la globalité, je parle par exemple pour la France, ça se voit pas encore, c'est pas encore perceptible. Si on prend l'intervalle des 5 dernières années. Mais sur les 2 dernières années, dans certaines filières, on a retrouvé des chiffres qu'on n'avait pas vus. Alors, moi, je suis vice-présidente d'une école d'ingénieurs de Lyon qui s'appelle l'INSA. Il y a 2 ans, il y a eu un vrai bond en avant sur la part des filles, vu que l'on a dû s'approcher des 40%. Alors, bon, c'est retombé à 18% cette année, mais ça ne s'était pas vu depuis très longtemps. Dans des secteurs d'informatique pour la gestion d'entreprise, les 3 plus gros Master de France en la matière sont montés en gros à la parité. Là encore, ça ne s'était pas vu depuis des années. En fait, depuis 2 ou 3 ans, il y a une énergie institutionnelle mise dans montrer que les métiers du numérique sont ouverts à tous, en particulier à toutes, qui ne s'était jamais vu. Donc, je pense que les choses se transforment. Et l'autre endroit où ça se transforme, c'est quand on commence, on a de plus en plus de séries ou de films, ou même d'animation, où la geek, c'est une fille. Ça devient un personnage beaucoup plus banal. Donc, je pense que le scoop, il est là. C'est qu'on ne l'a pas encore vu dans les chiffres, mais que les choses commencent vraiment à se transformer.
Et en plus, dans des filières dites dures, gestion d'entreprise, ce n'est pas forcément les filières où on s'attend à trouver le plus de femmes. On s'attendrait plutôt à les trouver en marketing ou en administration.
Alors là, ils y étaient déjà, effectivement, mais quand on les trouvera en IA et en Big Data, c'est qu'on aura fait la révolution.
Mmh. Ouais. Oui, effectivement, vous parliez de modèles. Effectivement, les nouveaux modèles de filles geeks ne sont plus des punks.
Ils sont plus variés.
Ouais, ils sont plus variés et sont moins extrêmes que Lisbeth Salander.
Ils sont positifs, ils sont sympas, ils sont marrants. Enfin, voilà, ça change vraiment.
Ok, ben Isabelle Collet, merci infiniment pour cet épisode passionnant de
formation. Je vous en prie.
Cet épisode est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un message sur le site de podcasting, Anchor. Et puis, je vous retrouve dans une quinzaine de jours. À bientôt.